Marie-Hélène rencontre. Le concept du balado est bien simple. En fait, c'est d'informer les citoyennes et les citoyens sur des sujets et des enjeux qui vous touchent. C'est aussi pour briser certaines idées préconçues sur la politique fédérale. Et bien sûr, d'en apprendre davantage sur votre député. Donc, les invités vont me poser des questions. Et pour la suite du jeu, je leur poserai des questions sous forme d'une discussion très conviviale. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Je suis privilégiée aujourd'hui pour cet épisode. J'ai quelqu'un que je connais très bien et que vous connaissez sûrement parce qu'en fait, c'est notre expert conseil sur la production laitière et les produits végétaux. Dans le fond, c'est Hugo Léonard qui travaille pour Novago Coopérative depuis pas mal longtemps. Bonjour à toi, Hugo.
Salut Marie-Hélène, ça va bien?
Oui, merci beaucoup d'avoir accepté en fait notre rencontre.
Moi, je voulais juste savoir le rôle de député dans la région, surtout en ce qui a trait au domaine agricole. Ça consiste à quoi?
Je trouve ça intéressant que tu me poses la question parce que souvent, ça a l'air bien flou. Qu'est-ce que le fédéral peut faire? C'est sûr que quand on parle de l'aide, c'est de l'aide au niveau de la mise en marché et de la commercialisation. Et évidemment, bien, aujourd'hui, mon objectif, c'est de parler davantage de l'agriculture de façon générale, mais aussi de ce qui se passe davantage chez nous dans Laurentie-de-la-Belle. Mais c'est sûr qu'au quotidien, il y a beaucoup d'enjeux qui sont plus larges que du domaine de l'agriculture. Et des fois, ça peut être aussi simple que quelqu'un qui se retrouve malchanceux, pas capable de renouveler, par exemple, un logement, va cogner à la porte de la députée, à savoir, pouvez-vous m'aider? Ça peut être au même titre que des irrégularités dans des systèmes, par exemple, de paye de Phoenix ou même les prestations d'urgence qu'on a vues. Il y a eu beaucoup de gens, malheureusement, qui ont soit été victimes de fraude et on devait aller investiguer où était leur dossier. Et ça, en fait, je dois te le dire, Hugo, c'est pas moins que 60 000 courriels dans une année que nous traitons. OK, c'est sûr que chaque courriel ne prend pas nécessairement une journée pour le traiter, mais ceci étant dit, il y a beaucoup plus de gens, des fois, qu'on pense qui nous demandent de l'aide. Et j'ai le plaisir, puis je vais prendre le relais pour te dire que j'ai une équipe extraordinaire parce que, tu sais, Laurentie-de-la-Belle, c'est un grand territoire qui, moi, je dis, c'est de Sainte-Anne-des-Lacs à Sainte-Anne-du-Lac. C'est 43 municipalités. Et tantôt, je disais qu'on reçoit 60 000 courriels, mais on reçoit aussi beaucoup de demandes d'aide sur les différents enjeux. Et au total, nous sommes 7 à faire tout ce beau travail-là, parce qu'il y a le travail également du Parlement. Mais là, c'est à mon tour, là. J'ai envie de te poser quelques questions, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, une coopérative de ce nom qui s'appelle Novago, que nous, on connaît, en fait, dans le secteur nord de Laurentie-de-la-Belle, hein, pignon sur rue sur la 117. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi Novago, la coopérative?
Bien, en fait, Novago, c'est né il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans de la fusion de plusieurs coopératives. En fait, au départ, moi, quand j'ai commencé à travailler pour les coopératives, on avait une centaine de coopératives indépendantes affiliés à la coop fédérée. En fait, c'est toutes des petites coopératives qui s'approvisionnent et toutes les ressources, les ressources et développement est fait par la fédérée, puis c'est un fournisseur. Et depuis, il y a eu Chrysalide, je me souviens, il y a peut-être 7, 8, 10 ans, et le but, c'était vraiment de fusionner les coopératives. Là, maintenant, je ne me souviens pas exactement comment il en reste, mais je crois que c'est 6 ou 7, 7, 8 coopératives, mais des très grosses coopératives. Nous, avant, on était Agrodor.
Je m'en rappelle.
Et depuis la fusion, depuis 2 ans et demi, 3 ans, on a fait Novago. Novago, ça comprend les coopératives à partir de Pont-Rouge, Québec, jusqu'en Abitibi, en passant par l'Outaouais à Turceau.
C'est un très grand territoire.
C'est toute la rive nord du Québec, en fait. Novago, pour te donner un petit peu les chiffres, là, c'est 370 millions de chiffres d'affaires, 2500 membres producteurs agricoles, 15 000 membres consommateurs, plus de 400 employés, 13 quincailleries BMR et Agrison. À Mont-Laurier, c'est un Agrison. Plus de 220 000 tonnes de moulées vendues. Plus de 55 000 hectares ensemencés et 45 000 tonnes d'engrais vendus.
Donc là, on parle d'approvisionnement, mais j'imagine qu'il y a des services aussi à tout ce beau monde-là que
vous offrez. Oui, absolument. Chaque coopérative a une équipe au niveau agricole. En fait, les coopératives, c'est mêlant parce que mon camion est écrit Solio, qui est l'ancienne coopérative fédérée. Mon bureau est au Agrizone, qui est la quincaillerie. Et moi, je donne le service aux producteurs agricoles directement sur le terrain, surtout en production laitière et en grande culture.
Donc, en fait, quand ils veulent savoir si tout se passe bien ou maximiser leur production ou s'assurer, ben, dans le fond, parce que c'est une entreprise, hein, au final aussi, avoir de la production laitière, donc tu es l'expert, tu es celui. Comment ça se passe là, avec tes clients?
Bien, en fait, moi, ce que je fais surtout, c'est des calculs de rations alimentaires et tout ce qui est service agronomique au niveau des grandes cultures, les calculs d'engrais, les pesticides, des choses comme ça. Par contre, on a de plus en plus des calculs économiques. Fait qu'on a une équipe en arrière de moi qui vient de la coop fédérée, de Solio Agriculture, ancienne coop fédérée. Je fais toujours le parallèle parce que les gens sont un peu mêlés. Mais on a une équipe en arrière, puis on y va vraiment avec des données technico-économiques puis des calculs pour savoir ce qui est rentable, surtout avec les situations qu'on a présentement. Avec l'inflation, avec les coûts.
On parle de plus en plus
d'économie et on ne peut pas couper plus que il y a une certaine limite où on peut couper pour nourrir les animaux puis qu'il y ait un rendement puis qu'il y ait un bénéfice au bout de ça. Fait que il y a une équipe en arrière de nous autres vraiment pour nous épauler puis arriver avec des données qui sont.
Qu'est-ce qui distingue, en fait, dans le nord de la circonscription, dans Laurentides-la-Belle, parce que le modèle qu'on vit est différent de ce qui peut se passer?
C'est une super bonne question parce que les Laurentides, c'est grand et on a différents types d'agriculture. Présentement, avec l'inflation, avec l'augmentation des coûts d'engrais et l'augmentation des prix du grain, il y a une grosse différence avec la région ici parce que dans le sud, on peut produire notre maïs nous-mêmes. Ici, on peut le faire avec des bases d'unités thermiques, mais on n'a pas les mêmes rendements que les gens du Sud ont. Ce qui fait que la majorité des producteurs ici doivent acheter leur grain avec l'augmentation des prix du grain pour nourrir leurs animaux. Et ça a un impact direct sur les finances et sur la marge.
Donc, on est moins dans l'indépendance que peuvent vivre d'autres, dans le fond, dans leur système. Je la savais pas celle-là, en fait, puis j'en apprends tous les jours et c'est pour ça que tu es notre invité. Puis d'ailleurs, ben, quand on parle de l'inflation, les entreprises, les producteurs vivent un choc avec ce qu'on vit, mais on entend beaucoup parler de la relève, de la main-d'œuvre, et ça, c'est vraiment là, dans tous les secteurs d'activité. Mais qu'en est-il, dans le fond, dans le secteur de l'agriculture?
Au niveau de la relève, je te dirais, moi, depuis les 20 dernières années, ça allait relativement bien. Il y avait une passation au niveau des entreprises agricoles, puis ça évoluait, ça allait super bien, contrairement à d'autres régions. Mais je te dirais, depuis la pandémie et avec l'inflation présentement, on voit des entreprises avec des jeunes qui sont en âge d'avoir une entreprise qui abandonne la production. Ça, on n'avait jamais vu ça avant. Et c'est un effet direct, là. Avec la situation au Québec présentement.
Mais qu'est-ce qui leur manque?
Je dis au monde, mais moi, je fais beaucoup le parallèle avec monsieur et madame tout le monde. Parce que on parle de production agricole, mais même j'ai une inquiétude, même au niveau de mes enfants, au niveau de l'accès à la première propriété.
Puis, c'est tout un enjeu.
Bien, si on a un problème au niveau de la jeunesse à ce niveau-là, imaginez-vous quelqu'un qui veut acheter une ferme. Fait qu'il y a un enjeu qui
est là. C'est pas juste la terre, c'est les équipements. C'est un peu comme dans le domaine forestier.
Bien, c'est tout. Mais là, c'est crise après crise. Tu sais, il y a la pandémie, le manque de main-d'œuvre, l'augmentation des intrants, le pétrole, le diesel actuellement. Fait que on commence à trouver ça difficile.
Est-ce qu'il y a des solutions écologiques?
Moi, je pense qu'un peu comme dans n'importe quoi, il y a le retour du balancier. Et moi, je me rappelle de mon grand-père, quand il me parlait d'agriculture, tout le monde n'avait pas son tracteur. T'sais, il y avait des CUMA, des mini-coopératives. Je ne me souviens plus de la signification exacte, mais c'est des producteurs qui vont se mettre ensemble, puis qui vont acheter un équipement, puis ils vont se le partager. Fait qu'il y a un retour de plus en plus à ça, parce que l'augmentation des coûts va avec l'augmentation des prix de machinerie, etc., là.
Oui, puis la masse, en fait, j'imagine que même qu'il y a même des producteurs qui doivent se joindre ensemble, faute aussi de relève puis de main-d'œuvre. On voit des fois des reportages que des gens vont s'arrimer ou s'entraider davantage que.
Mais c'est sûr que la communauté agricole est très proche, puis il y a beaucoup d'entraide, mais souvent, ils sont seuls à la ferme, puis les jeunes partent, puis ils ont de la misère à trouver des employés pour les aider. Fait que c'est pas facile. Moi, j'ai une grande admiration pour ce métier-là. L'agriculture, ça fait partie d'une de mes passions, puis je regarde, c'est une vocation, hein, c'est pas un travail. C'est des gens qui sont là. Puis, tu sais, on parle d'autonomie alimentaire de plus en plus. Puis, quand je vois qu'est-ce qui arrive présentement, je me dis, est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction? Parce qu'un pays qui n'est pas capable de se nourrir lui-même, ben le pays qui va y vendre, il va en profiter, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment pas perdre de vue ce côté-là. Je pense que...
Qu'est-ce que tu en penses quand on... Parce qu'il y a une réalité, il y a 50 ans, de la façon, ce qu'on trouvait dans nos assiettes, puis aujourd'hui, ce qu'on souhaite avoir dans nos assiettes, quand on parle de souveraineté alimentaire et qu'on a vécu, on a eu un avant-goût quand on a mis tellement l'accent sur l'achat local, tout ça, mais en termes d'approvisionnement, de ce qu'on peut soutirer de ce qu'on a comme climat, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la souveraineté alimentaire au Québec?
Bien, je pense que le consommateur va avoir un bout de chemin à faire. Puis il va falloir à un moment donné pas manger des fraises au mois de janvier comme nos grands-parents faisaient. Je pense qu'il faut revenir un peu à ce qui se faisait il y a 50 ans pour trouver un équilibre là-dedans. Puis moi, ça fait partie d'une des solutions. Puis,
bien, moi, j'ai une dernière ou avant-dernière question. De quoi, avec toutes ces années de conseils et de constats que tu as fait, de quoi tu en es plus fier de ce domaine-ci qui est l'agriculture, la production laitière qu'on a chez nous?
Moi, ce que je te dirais, écoute, tu me prends un peu au dépourvu en me posant cette question-là, mais je te dirais, c'est le côté familial. Tu sais, dans la région comme ici, c'est un petit peu plus difficile parce que c'est des fermes beaucoup plus petites, mais il y a quand même le côté familial puis l'occupation du territoire. On fait partie d'une super belle région. Moi, je ne peux même pas m'imaginer qu'il n'y a plus d'agriculture dans la région. Tu sais, l'agriculture, c'est le troisième moteur économique de la région en chiffre d'affaires.
C'est important de le rappeler parce que souvent...
Oui, puis je regardais, j'avais des notes, il me semble, c'est plus de 60 000 hectares, la MRC Antoine Labelle.
C'est énorme!
C'est énorme. Puis c'est surtout des champs, puis c'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement pour en vivre, là.
Mais, on doit en être fiers. Puis il y a une maximisation que je comprends qui peut être faite aussi.
Il y a plein de potentiel. C'est sûr que là, avec l'inflation, on voit plein de côtés plus. On voit côté négatif, mais il y a plein d'opportunités. Mais pour répondre à ta question, c'est vraiment le côté familial, le fait que c'est pas des méga entreprises, c'est toutes des gens qui sont tissés serrés, qui se connaissent tous.
J'ai l'impression qu'avec. Les barrières qui se sont fermées ou l'isolement qu'on a vécu, comment on a apprécié ce qu'on a, entre autres, quand on a découvert notre Québec qu'on n'avait peut-être pas fait parce qu'on allait davantage explorer la planète au grand complet. J'ai l'impression que cette proximité-là est devenue quelque chose que autant il y a des familles qui n'avaient jamais... semer des jardins, entre autres, et de récolter pour la première fois, donc de vivre cette expérience-là et d'explorer aussi, de voir d'où viennent nos produits, de regarder un peu dans la chaîne de production. J'ai l'impression que les gens sont de plus en plus fiers quand ils sont capables d'avoir la traçabilité. Es-tu d'accord avec moi?
Absolument. Oh, puis on le voit, hein, il y a de plus en plus de marchés locaux qui sortent, puis les gens ont un engouement pour ça. Mais il y a quand même... Ça, c'est le côté positif, mais il reste quand même que moi, j'observe les gens quand je vais à l'épicerie. Puis les gens sont tous pour la vertu, mais ils regardent souvent le prix. Puis on oublie souvent la vertu quand on regarde le prix. Puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir se rendre compte que si on veut bien manger, puis on veut avoir notre autonomie alimentaire, il va falloir payer ce que ça vaut vraiment. Parce que si on ne le fait pas, on va se faire rattraper si on est obligé d'aller acheter ailleurs. Mais ça, c'est mon opinion personnelle.
On entend beaucoup parler sur au niveau mondial de tout ce qui est protéines bovines, tout ça, de l'accès, en fait, qui va réduire avec le temps. Puis évidemment, j'ai l'impression que c'est comme de changer notre culture de consommation.
Hein? En partie, mais c'est d'être cohérent avec nos priorités.
Tout à fait, tout à fait.
Juste saluer tous les producteurs qui, présentement, sont souvent pas à l'écoute de toutes les choses qu'on fait au niveau des médias, mais qui sont en train de travailler pour qu'on puisse bien manger.
En tout cas, si ça a donné le goût aux auditeurs, non seulement d'en savoir davantage, mais de voir que en amont, il y a de l'expertise, il y a de la planification, il y a de la fierté. Et bien ça, ça va peut-être donner le goût à des gens d'en savoir davantage sur la production et sur ce qu'ils consomment. Donc, je te remercie infiniment, Hugo, Léonard, qui, en fait, est l'expert conseil de la production laitière et de la productivité, la production végétale de la coopérative Novago. Je vous remercie. On va se voir à la prochaine épisode et au plaisir. Vous souhaitez partager ou réécouter cette balado? Rendez-vous sur mes différentes plateformes numériques. Je vous remercie pour votre écoute.